Dans l'épisode d'aujourd'hui, on retrace la création d'un collectif de salariés bien décidés à faire bouger leur entreprise, une marque française dans la grande distribution, pour s'aligner avec la transition écologique. Eux sont au siège social, mais dans les magasins, sur le terrain, ça peut être parfois compliqué d'embarquer les équipes sur des sujets environnementaux ou de le rendre concret pour eux. Pour cela, Energic, qui soutient ce podcast, a déployé son challenge environnemental auprès de nombreuses entreprises de retail. Ça leur permet à la fois de faire des économies dans les magasins grâce aux éco-gestes adoptés par les équipes terrain, mais aussi de former les collaborateurs pour qu'ils comprennent mieux, personnellement, les nouvelles attentes de clients sur l'écologie. Quand ce n'est pas de satisfaire directement les salariés qui sont souvent en attente d'être mieux formés aux enjeux écologiques par leur entreprise. Pour en savoir plus sur les entreprises de la grande distribution qui ont déjà déployé le challenge d'Energic et leur avis sur cette solution, rendez-vous sur l'article dont le lien se trouve dans les notes de cet épisode. Bonjour et bienvenue dans Écolo au boulot. Je suis Cassandre Joly et mon but est de donner du sens au travail à travers l'écologie. Ensemble, nous trouvons des idées, des astuces, de la motivation et de l'inspiration pour rendre son quotidien au travail plus écologique et se sentir utile. Collectif de salariés. C'est peut-être un terme qui vous parle. C'est un sujet que j'avais abordé avec Pauline et Alexis dans l'épisode 37 du podcast sur l'association Les Collectifs. Ces salariés qui se regroupent pour donner du poids à leur volonté d'accélérer la transition écologique dans leur entreprise. Et c'est ce qu'on va vivre aujourd'hui avec Chloé, Colline et Guillaume qui ont créé un collectif dans une grande entreprise française. Vous allez voir, on entre vraiment dans les détails, c'est comme si on y était. Vous allez pouvoir vous inspirer de leur audace, de leur persévérance, mais aussi leur piquer quelques idées d'organisation ou d'action. Surtout, ils sont une magnifique preuve qu'un groupe d'une dizaine de salariés, dans une entreprise qui en compte des milliers, est capable de faire bouger les choses. Tout commence avec un manifeste, dans lequel ils expliquent leur souhait que l'entreprise accélère sa transition écologique. Ce manifeste, ils l'envoient par email, sans prévenir personne, aux 1000 personnes du siège social. Dans les heures qui suivent, ils reçoivent une convocation. Présentez-vous demain matin, à 9h précise, devant le comité de direction. Alors leur audace a-t-elle été une stratégie gagnante? Je vous laisse le découvrir dans cet échange avec Chloé, Colline et Guillaume. Alors Chloé, Guillaume, Colline, merci beaucoup d'être sur Écolo au boulot aujourd'hui.
Merci à toi de nous avoir invités.
Alors, est-ce que vous pourriez chacun vous présenter, nous dire voilà, quel est votre métier et depuis quand vous travaillez dans l'entreprise pour qu'on contextualise un petit peu dans quelle situation vous êtes.
Du coup, je vais commencer. Je suis responsable de contenu planète et sociétal. Je m'occupe de toute la communication de ces sujets-là pour l'entreprise auprès de nos clients de façon 360, donc autant sur le digital qu'en magasin. Je suis dans l'entreprise depuis 2016, donc ça commence à faire un petit temps, parce que ça fait 7 ans.
Moi, du coup, c'est Colline, j'ai 25 ans, je travaille au sein du département digital et je m'occupe de toute la partie parcours client, donc autour des sujets du moment, du rachat et des produits reconditionnés. Ça fait 5 ans que je travaille dans l'entreprise et j'ai toujours travaillé sur des sujets attenant à l'économie circulaire.
Ok.
Et donc Guillaume, ça fait 11 ans que je suis dans le groupe, toujours sur les questions de les réglementaires de conformité des produits que l'on met sur le marché. Et aujourd'hui, je peux mesurer tout ce qui arrive sur l'écologie, puisqu'il y a de plus en plus de réglementations qui nous impactent. Et donc, d'où ma présence ici.
Ok, donc ça fait voilà, vous n'êtes pas nouveau non plus dans l'entreprise et vos métiers sont pas directement, on va dire, liés à l'écologie, mais quand même pas mal finalement.
Oui. Finalement, oui.
Et de ce fait-là, moi, je me demande comment vous est venue cette idée de créer un collectif, puisque finalement vous aviez déjà un petit peu d'impact dans vos métiers chacun de votre côté. Voilà, comment s'est arrivée cette histoire?
Moi, à titre perso, avant qu'on crée le collectif. J'étais pas du tout sur un poste qui était dans lequel je travaillais en faveur de l'écologie ou de l'économie circulaire. En fait, le début du collectif, c'était pas un collectif. Au début, c'était juste des cafés et on échangeait sur les sujets environnementaux parce que c'est un sujet qui nous intéressait et qui nous préoccupait plusieurs d'entre nous étaient, on peut dire, en situation de éco-anxiété. Donc c'était aussi un moyen de pouvoir échanger sur ce sujet-là et de ne pas se sentir seule face à ça.
Ok, mais moi, je te coupe parce que je veux en savoir un petit peu plus là-dessus. C'est que bon, parler d'éco-anxiété au travail, c'est quand même pas un sujet aussi courant que la pluie et le beau temps et la météo et est-ce que le café est bon ou pas. Comment vous en venez, surtout que vous n'êtes pas dans les mêmes services, à vous parler de votre éco-anxiété?
Bah, ça s'est fait aussi un peu au bouche à oreille. Déjà, on était plusieurs à travailler ensemble de par nos métiers. Parce que on se connaissait via d'autres collègues, donc on s'est réunis comme ça, et puis après chacun de notre côté on ramenait aussi d'autres personnes de l'entreprise qui pouvaient être intéressées par les sujets. Et il y a aussi un groupe au sein de l'entreprise qu'on appelle les fresqueurs.
Tout à fait, les fresqueurs, notamment autour du climat dans un premier temps, puis aujourd'hui la fresque de l'économie circulaire, et c'est par ce biais que certains d'entre nous se sont connus. Et donc, de ces fresques, on a commencé à discuter de bah, c'est très bien de sensibiliser, mais comment avancer encore plus dans l'entreprise sur ces sujets-là.
Parce qu'on était bien conscients aussi, hein, chacun dans notre métier, qu'on est dans une entreprise qui a un impact pas très favorable pour l'environnement. Et justement, on s'est dit qu'il y avait plein de choses à mettre en place et que nous, on pouvait venir se positionner en accompagnement de l'entreprise pour accélérer la transition et faire bouger un petit peu les choses. Mm. Et surtout, éveiller les consciences aussi chez les autres collaborateurs.
Et puis, on a eu des exemples aussi dans la sphère dans laquelle on est, d'autres entreprises du retail. On a vu des collectifs émerger et on voyait que ça prenait plutôt bien et que leur voix était écoutée. Donc, on s'est dit que c'était une solution pour pouvoir évoquer ça avec les dirigeants de l'entreprise.
Ouais, voir que ça existe dans d'autres entreprises, ça donne un peu confiance.
Donc après, on s'est dit, bon, c'est une bonne idée, partons là-dessus. Et on a décidé de rédiger un manifeste pour pouvoir expliquer notre existence, pourquoi on était là et ce qu'on voulait faire.
Et surtout aussi voir si on n'était pas les seuls dans l'entreprise, en tout cas, qui avaient des convictions écologiques et qui vivaient peut-être aussi une éco-anxiété.
Et c'est comme ça que vous l'avez présenté dans le manifeste ? Vous avez écrit quoi dans les grandes lignes ?
Le manifeste n'était pas à destination spécifiquement des dirigeants. C'était plus, comme l'a dit Colline, une question de se dire est-ce qu'on est les seuls dans l'entreprise à penser ça ? Est-ce qu'il y a d'autres personnes concernées ? Donc, on a envoyé le manifeste à l'ensemble des collaborateurs qu'on pouvait contacter rapidement. Et dans ce manifeste, on commence d'abord par un constat de société et un constat environnemental par rapport notamment au rapport du GIEC qui venait d'être publié à ce moment-là. Donc, pour montrer aussi que on n'est pas juste une bande de jeunes éclairés, mais qu'on s'est renseigné sur les sujets sans pour autant être expert des questions climatiques, etc. On ne se positionne pas du tout dans ce créneau-là, mais on est sensibilisé, on s'appuie sur des données factuelles, des données d'organismes reconnus. Et donc, ça arrivait aussi un moment où on a passé le premier été, un été particulier, l'année dernière, donc 2022. On a pu déjà constater chacun, nous, dans nos vies personnelles, que le réchauffement climatique nous impactait tous, et pas uniquement les ours sur leurs banquises ou les petites îles perdues au milieu du Pacifique.
Ouais, c'est l'été où il y a eu des grosses canicules, des feux de forêt importants. Ouais.
Et au final, cette année, c'est peut-être même pire que l'année dernière.
Et donc, comme on disait au début, on a souhaité donc responsabiliser l'entreprise et ses collaborateurs et collaboratrices sur le fait que donc, nous sommes partie prenante sur la crise environnementale en cours et qu'on a un pouvoir d'action. Donc, partie prenante, toutes les entreprises et chacun de nous en tant qu'individu, de par notre mode de vie, partie prenante, pas juste cette entreprise en particulier, mais vraiment tous au même niveau finalement.
Et du coup, dans le manifeste, on a, pour rebondir sur ce que vient de dire Guillaume, on a aussi mis des parties. En gros, on a structuré avec aussi les ambitions qu'on avait pour l'entreprise. Et dans ces ambitions, c'était comment on pouvait accompagner, aider, challenger l'entreprise sur ses décisions, sur les projets qu'elle peut mener, et aussi sur nos volontés d'action avec des propositions. On n'est pas juste venu avec un manifeste en disant bon. là ça va pas, vous êtes pas cohérent et c'est tout. On a aussi voulu mettre dans ce manifeste des idées qu'on avait des premières ébauches, sans entrer dans le détail hein, du coup, mais pour voilà, montrer que on voulait faire ça pour et avec l'entreprise et non pas contre, et qu'on était motivés pour voilà, tous se mobiliser autour de ça. On a mis énormément de temps à écrire le manifeste.
C'est ce que j'allais vous demander.
Il nous a fallu plusieurs mois, honnêtement. Je pense qu'on a mis un bon 3 mois à l'écrire. Ouais. Parce que ben, déjà, on était plusieurs et qu'on en reparlera peut-être après. Mais on a une gestion particulière du collectif qui est une gestion par le consentement. Donc, on part du principe que si tout le monde n'est pas 100% d'accord, ben, ça ne sort pas. Donc, forcément, ça fait que ça prend plus de temps. Mais ça fait aussi que tous les signataires de ce manifeste était en complet accord avec ce qui était écrit, et n'était pas mal à l'aise et pouvait défendre tout ce qui était écrit. On a fait attention au poids de chaque mot parce qu'on voulait pas être accusateur, moralisateur ou passer pour des experts du climat. C'était pas du tout le but, comme le disait Guillaume tout à l'heure. Donc voilà, on a vraiment bien insisté sur le fait que bah, y a un constat écologique qui est tel quel et qu'on peut pas dire que ça n'existe pas, parce qu'il y a le rapport du GIEC, quelles sont les ambitions qu'on a pour l'entreprise et où est-ce qu'on pourrait aller, quelles solutions on pourrait apporter et comment on pourrait travailler ensemble, et du coup de faire pour et avec l'entreprise.
Et vous étiez combien justement pour écrire ce manifeste à ce moment-là ?
On était 11.
Ouais, une petite douzaine à ce moment-là, au moment de la création du collectif.
Ok, ouais, c'est déjà pas mal pour se mettre d'accord sur un texte en analysant chaque mot. En effet, il faut un peu de temps.
Et sur notre temps personnel.
Ouais.
Vous faisiez ça comment? Sur les pauses café, les midis?
Ouais, le temps du midi ou le soir. Bon, après, c'est aussi au-delà du collectif et de la raison pour laquelle on l'a créé, on s'entendait tous très bien. Donc, il y avait un peu aussi cet esprit collégial. Enfin, voilà, c'était des bons moments aussi autour de cette rédaction de manifeste.
Ok, donc vous vous mettez d'accord sur un manifeste et là vous décidez de l'envoyer du coup à tous les salariés, mais y compris la direction.
C'est ça, on va pas se le cacher, c'est un moment stressant pour tous ce jour-là. Je pense qu'on se rappelle tous dans quelle salle on était.
Parce qu'on a prévenu personne.
C'est limite si on n'a pas tous appuyé sur le bouton en même temps. Mmh. C'est vrai qu'on avait prévenu personne et du coup on s'adressait... avant tout aux collaborateurs qu'à la direction, comme l'a pu dire Chloé et Guillaume. On a pris la liste de diffusion, en fait, qui permet d'envoyer un message à tous les collaborateurs du siège social, tous les collaborateurs en interne. Donc, on a vraiment atterri dans la boîte mail de tous nos collègues.
Ah oui, et du coup, vous êtes combien au total ?
Alors, c'est de l'ordre de 1000 personnes.
Ok, ouais, c'est comme si tu te disais, bon, bah, je vais lire un texte devant 1000 personnes, ça va bien se passer.
Exactement.
Ouais, c'était trop drôle parce qu'on s'accompagnait dans les couloirs et tout pour pas rester tout seul. C'est pas qu'on avait peur de se faire taper sur les doigts sur la route, mais on a prévenu personne, on a mis nos noms. C'était envoyé au nom du collectif Ça Passe, mais personne ne le connaissait. Donc, puis on était signataire, on a mis notre prénom, notre nom. Donc quand on avait des regards sur nous, c'était ils nous regardent pour le manifeste ou ils nous regardent juste parce qu'on passe. Enfin, c'était assez drôle quand même maintenant quand on y repense.
Parce que c'était nos dirigeants, nos collègues, nos chefs. Donc c'était.
Après certains, on avait parlé avec. Enfin, moi, je me souviens, j'en avais parlé avec ma manager. Je lui avais dit que ça allait sortir. Nos managers ont. Enfin, en tout cas, moi, ils étaient très bien au courant. On avait aussi remonté. Enfin, le manifeste, il n'est pas sorti comme ça du chapeau de magicien. Enfin, on a essayé aussi d'en parler dans des NPS auprès de nos managers. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était pas suffisant et que c'était pas peut-être pas assez fort et assez entendu sur entre guillemets. Par rapport aux défis qu'on a en fait. Et donc on n'est pas arrivé, voilà, c'est pas on s'est dit voilà, on va protester et faire un manifeste sans avoir essayé avant autre chose, quoi.
Vous aviez essayé d'autres choses, donc les NPS, c'est est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est?
Le NPS, en fait, c'est quelque chose qui nous est envoyé tous les mois.
C'est une enquête de satisfaction,
ouais, okay. Des collaborateurs et des collaboratrices.
D'accord, oui, donc vous aviez déjà essayé de faire remonter ce sujet et il n'y avait rien de spécial qui avait changé de...
En tout cas, alors j'anticipe peut-être sur les autres, sur la suite, mais c'est vrai que on a découvert grâce à notre action certaines choses qui étaient déjà lancées dans l'entreprise dont on n'avait pas encore connaissance. Donc on a utilisé ce premier moyen pour communiquer et on n'a pas eu forcément de retour concret sur ce sujet-là, parce que la satisfaction collaborateur, c'est sur tous les sujets, c'est pas uniquement sur l'environnement. Pour autant, on ne sait pas si finalement ça a eu aucun impact ou si ça a eu un impact, mais dont on n'était pas au courant.
Oui, des fois c'est un petit peu long. Et c'est une question que je voulais vous poser aussi. Est-ce qu'il y avait des choses particulières qui vous inquiétaient dans l'entreprise ou des choses où vous disiez non mais ça vraiment c'est pas possible, ou c'était de manière générale, vous saviez que votre entreprise, il fallait de toute façon qu'elle fasse beaucoup mieux qu'aujourd'hui?
On subissait tous une sorte de dissonance, on va dire, à plusieurs niveaux. Déjà parce qu'il y avait des stratégies qui étaient posées et qu'on ne voyait pas forcément des prises de décision qui allaient dans le sens des stratégies. Donc c'est vrai que c'était un petit peu compliqué à comprendre. Et il y a des sujets qui existent, hein. Il y avait quand même des... Il y a des belles choses de fait sur les modèles autour de l'économie circulaire. Et il y avait une frustration aussi de se dire que ce n'était pas assez visibilisé, que ce soit en externe ou en interne.
Et qu'ils n'avaient pas forcément non plus assez les moyens aussi, autant en termes de financiers qu'en termes de personnes sur les sujets. Donc, en fait, c'était un global de plusieurs choses. On s'est dit, il faut qu'on réagisse, d'autant plus que, ben, comme on le disait tout à l'heure, voilà, il y a une grande partie qui était fresqueur. Et donc, du coup, quand on est fresqueur, on a pas mal de données en tête. Quand on a ça en tête et qu'on voit ce qu'on est et qu'on a la conscience de l'empreinte carbone de l'entreprise et que ben on vend du produit qui est neuf, on participe à la raréfaction des ressources. Enfin, il y a pas mal de questions, enfin de problématiques en fait en tout ça, et on s'est dit faut que ça soit quelque chose qui ait vraiment de l'impact, qui soit vraiment entendu et que ça puisse faire vraiment pas un effet bombe, mais vraiment quelque chose qui impacte, qui fait du bruit. Et pour nous, c'était la meilleure solution, peut-être pas la meilleure. Mais en tout cas, à nos yeux, c'était une évidence à ce moment-là.
C'est peut-être la forme qui était à revoir, mais au moins le fond était là.
Et donc alors, vous lâchez votre bombe, vous envoyez ce mail, et vous restez combien de temps à vous demander est-ce que les gens l'ont lu ou pas encore, à partir de quand est-ce qu'il y a eu des réactions?
Ça a été très rapide. Ouais.
En moins de 24 heures, on a eu 150 signatures. Okay. Et là, on s'est dit, on n'est pas tout seul, c'est cool.
Première réaction,
c'est ça, c'est ouais, on n'est pas tout seul, ça va ce qu'on dit, ça reste cohérent apparemment.
Alors, comme c'était un formulaire envoyé, alors le manifeste a été envoyé sous forme de formulaire informatique, donc numériquement, on a pu suivre l'évolution des signatures. Donc, dès la première heure, on a vu qu'il y avait déjà un certain nombre de signatures et que ça n'a pas cessé d'augmenter.
Et on avait aussi, c'est important de le signaler, oui, on avait mis une petite case commentaire. Mmh. Donc on avait aussi des messages encourageants en parallèle.
Pour donner de la force.
Donc ça nous a quand même pas mal rassurés.
Et, ouais, et quelque chose que je voudrais préciser aussi, c'est qu'on avait laissé l'opportunité aux personnes qui voulaient signer, de signer en leur nom ou de manière anonyme. Parce que bon voilà, on savait ce qu'on faisait. Donc voilà, on voulait aussi laisser l'opportunité à des personnes de pouvoir s'exprimer sans donner leur nom.
Et étonnamment, je pense qu'un bon trois quarts, si même pas plus, des signataires ont décidé de signer avec leur nom. Mm. Donc, c'était une belle preuve aussi.
On était contents, ouais. Donc, après, le côté signataire, il y a eu le côté réaction-direction, forcément.
Ouais, c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce qu'à un moment, des managers sont venus vous voir ?
C'était très rapide aussi, hein. Parce qu'on l'a envoyé au midi, à 22h, on recevait un message... de réunion avec tout le comité de direction le lendemain matin. Donc voilà, vraiment une action-réaction très rapide. Honnêtement, moi perso, je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi rapide.
D'ailleurs, on avait même peur. Moi, ma pire crainte, c'était pas de réaction.
Ouais, bien sûr.
Ça aurait été terrible, en fait, de se dire...
ça fait flop.
Ils s'en moquent et point. Non, là, franchement, très agréablement surpris d'avoir une réaction et si vite et avoir... Je pense que c'est une petite fierté, mais de réussir à être rencontrer le comité de direction comme ça en moins de 24 heures, je pense que c'est assez rare. Mm. Donc pour ça, on a été agréablement surpris. C'était vraiment bien de leur part de nous contacter aussi vite.
Surprise, stressée aussi. Ouais. Parce qu'on ne savait pas qu'à ce moment-là, on allait manger quand même.
C'est ça. Et est-ce que vous étiez prêt à aller... parler de votre manifeste devant le comité de direction le lendemain? Enfin, vous vous étiez préparé là, c'est entre 22h et le lendemain matin, il n'y avait pas beaucoup de temps.
On s'est préparé à 8h au matin.
Je peux faire une comparaison bizarre ou pas?
Non.
Alors, je vais quand même la faire. Non, je pense que c'est comme l'arrivée d'un enfant. C'est-à-dire que on s'est préparé, mais je ne sais pas si on peut dire qu'on était vraiment prêt, parce que ça pouvait être tout et n'importe quoi. On ne savait pas s'ils allaient discuter, pas dire. Et voilà, on ne savait pas du tout si comment ils l'avaient pris déjà. Et donc, on avait préparé forcément. On s'attendait à la question pourquoi, pour, contre. Tous ces aspects-là. Donc, on l'avait préparé, est-ce qu'on était prêt ?
En fait, quand on a rédigé le manifeste, on s'est préparé à ce moment-là, au final. Parce qu'on s'attendait, enfin, moi personnellement, je ne m'attendais pas à ce qu'on ait un rendez-vous comme ça du lendemain. Et je ne m'attendais pas non plus à ce qu'on rencontre tout le comité de direction d'un coup, d'un seul, comme ça, tous ensemble. Donc, on a eu le message à 22h. On s'est envoyé, du coup, on a un groupe ensemble dans le WhatsApp. On s'est dit, bon, demain, on est attendu. Et donc, du coup, on s'est dit, bon, on arrive un peu plus tôt. Il y a toujours des retards, que je nommerai pas ici. Mais du coup,
il n'est pas là.
Mais du coup, ouais, on s'est retrouvés une heure avant le rendez-vous dans une salle. On a pris la salle la plus cachée
dans le bâtiment
pour faire ça. Et puis voilà, on s'est dit qui est porte-parole, parce que il y avait aussi ça, hein, qui est porte-parole, parce que on avait un point d'honneur, c'était et qui est toujours d'actualité dans comment on fonctionne entre nous, c'est de pas se couper la parole. Enfin voilà, donc on a défini deux porte-paroles,
parité,
du coup un homme, une femme. Les autres étaient là avec leur petit bouquin, enfin leur petit carnet et leur stylo pour prendre des notes. Après, si on voulait intervenir, on était libre de tous et toutes intervenir. Mais voilà, l'idée, c'était que ces deux porte-parole puissent porter notre parole, donner les messages. Et puis, de toute façon, on y est vraiment allé on était plusieurs, mais c'était une personne.
Mm-hmm. Puis, c'était aussi, il y avait de la pression derrière aussi, parce que c'est quand même une opportunité de rencontrer le CODIR. Tout le monde ne rencontre pas le comité de direction. Et donc, on voulait aussi porter un message clair, construit. Pas trop se disperser pour être impactant au maximum, et surtout le point d'honneur, c'était de les rassurer et de bien leur montrer qu'on était avec eux et pas en confrontation avec l'entreprise.
Et puis c'était pour nous et aussi pour au final les 150 personnes qui ont signé, parce que derrière, quand on a autant de personnes qui signent ce qu'on écrit, on a un devoir derrière de défendre jusqu'au bout ce qui a été écrit.
Ouais, c'est ça, avoir des signatures déjà au moment d'aller les voir le lendemain, c'est un super point positif.
Et de démontrer aussi le sérieux de notre démarche, finalement. C'est pas juste on a écrit sur un bout de papier la veille, on l'a envoyé, et voilà. Non, il y a toute une démarche qu'on a pu leur expliquer, justement. Ils nous ont laissé le temps de l'exprimer, et ça, c'était bien aussi.
Ok. Et donc, combien de temps ça a duré ? Comment ça s'est passé ?
Bon, je dirais une heure. La première question, c'est est-ce que vous êtes pour ou contre l'entreprise, en fait ? Savoir quelle était notre démarche.
Ouais. Il y avait vraiment, le comité de direction était vraiment partagé. Il y avait eu deux clés de lecture par rapport à notre manifeste. Et du coup, c'était, comme dit Chloé, c'était ce point-là qui était à éclairer au tout départ.
Et après, à partir du moment où on a éclairé le sujet, on a pu commencer à parler sur pourquoi déjà on en est arrivé là, comment ça s'est passé, est-ce qu'on avait essayé de les contacter ou pas.
Et ça vous a pas été reproché, justement, de pas essayer d'en parler avant d'envoyer un manifeste ?
Si, un peu. Après, le truc, c'est qu'on en a parlé, mais c'est juste qu'on n'en a pas parlé au comité de direction, tout simplement, parce qu'on avait peur de... Je pense qu'on n'aurait pas eu le même impact si on était passé par eux, sans lancer ce manifeste. Et c'est pour ça, peut-être, que sur la forme, c'était pas la meilleure manière à leurs yeux, mais dans le fond, on s'est rejoints au final. Donc c'était le plus important, je pense. Et donc voilà, après, à partir du moment où tout était éclairé et qu'on s'est dit, bon, on veut la même chose, c'est faire avancer l'entreprise, mettre en place la transformation, enfin mettre en place, c'est un peu pédant là de dire ça, mais elle était déjà un peu avancée, mais donner le poids du corps là-dessus, c'était comment on s'organise, qu'est-ce que vous voulez faire, comment vous voyez la suite. On n'avait pas encore toutes les réponses, parce que on a lancé le manifeste, le collectif n'était pas hyper structuré non plus, quoi. On y allait avec notre bâton de pèlerin, et c'était de porter une voix, et puis au final, ça s'est transformé en un vrai collectif qui a une organisation, des rythmes, et ça s'est construit par la suite. Donc on n'a pas eu tout de suite des actions. On a eu le manifeste qui a été notre grosse première action, Et puis après, bah, y a eu quelques mois de structuration.
Puis, sincèrement, on a eu besoin de respirer aussi un petit peu après le lancement du manifeste. C'était beaucoup d'émotions engagées, beaucoup d'énergie pour l'écriture. Donc, on s'est accordé, c'était la période de Noël et de Nouvel An, on s'est accordé un peu de temps de repos avant de s'y remettre.
Ouais. Parce que ouais, vous avez peut-être des collègues qui sont venus vous voir pour vous en parler aussi directement. Il n'y a pas eu que des réactions en ligne, je suppose.
Tout à fait. Faut dire aussi que quand on lance le manifeste, on ne sait pas ce qui va se passer derrière. On va voir le codir, on ne sait pas ce qu'il va nous dire, donc on avait imaginé des choses, mais rien, on n'avait rien pu préparer de concret, d'où ce temps ensuite où il a fallu se poser. Mais je pense qu'on est dans le scénario rêvé, où on lance quelque chose, et le point très positif, c'est que derrière, ils nous ont proposé nous ont laissé le champ libre, et ils nous ont même accorder un sponsor pour nous accompagner dans la démarche et donc lancer des actions et pour tout en gardant notre liberté, le faire dans un cadre, dans le cadre de l'entreprise finalement.
Mais juste, pardon, un sponsor, vous entendez quoi par là exactement?
C'est quelqu'un du comité de direction qui nous suit, enfin c'est plus la même personne aujourd'hui, mais qui nous suit, donc avec qui on avait un comité de pilotage une fois par mois, où on lui faisait le feedback sur nos actions, et puis lui nous faisait le feedback sur ce qui se passait dans l'entreprise, ce qu'on devait connaître, et en plus de ça, ça nous donnait de la crédibilité au sein de l'entreprise, parce que s'il y a eu deux clés de lecture dans le comité de direction, il y a aussi eu deux clés de lecture dans l'entreprise et au sein du siège social. Donc il y avait des collaboratrices qui ne savaient pas si on était validé ou pas, et qui était en mode est-ce que c'est validé, est-ce que le comité de direction est ok avec ça, et puis une partie qui était très sponsor, en mode allez-y, c'est trop bien ce que vous faites, comment on fait pour vous rejoindre, voilà, on a dû éclairer aussi ce point-là auprès du siège social, pardon. Et donc le fait d'avoir un sponsor qui vient du comité de direction, ça a essayé, ça nous légitimait en fait, simplement.
Ouais. Et du coup, moi je trouve que c'est une belle preuve de reconnaissance et d'écoute de ces salariés, de se dire ok, on va se prendre un temps comme pilotage tous les mois, c'est quand même pas rien. Est-ce que vous savez ce qui a pu convaincre le comité de direction de vous écouter? Est-ce que c'est le fait que vous soyez potentiellement nombreux, que ce soit la parole des jeunes, que ce soit l'éco-anxiété, que ça vienne parler aussi de peut-être ce qu'attendent les clients, de l'évolution de la société, voilà. Est-ce qu'il y a un point où ils se sont dit « Ok, c'est important, on va dédier une personne du comité de direction et du temps pour suivre ce que ces salariés veulent faire ?»
Je pense, à titre personnel, je ne vais pas parler à leur place, qu'ils se sont dit que ça peut être aussi une opportunité. On aurait pu faire le choix de démissionner, de sortir de l'entreprise, et au final c'est une force vive des personnes engagées qui veulent faire évoluer les choses. Je pense qu'ils l'ont aussi pris comme une opportunité pour travailler avec nous, et il y a tellement de choses à faire qu'ils se sont dit que si on pouvait à notre niveau intervenir, même si c'est pour de la sensibilisation auprès des collaborateurs, c'était bon à prendre.
Et le sponsor qu'on a eu aussi croyait en nous, et je pense que c'est ça aussi qui a aidé, c'est que dès le début, après forcément c'était cette personne-là par rapport à lui, la verticale qu'il avait au sein de la direction, mais il croyait en nous, et donc ça a aidé.
Puis je pense que la réunion qu'on a eue avec eux, ça a pu permettre de les rassurer oui, sur nos convictions et nos intentions pour l'entreprise.
Ok, trop bien, en tout cas félicitations pour cette première étape. Et du coup, ensuite, vous avez commencé à dire que vous avez passé du temps à vous organiser, à vous structurer, et que d'ailleurs, vous avez une organisation, en tout cas une prise de décision collaborative. Est-ce que vous pouvez détailler un petit peu ça? Parce que je trouve que c'est intéressant aussi.
Oui, en fait, on a décidé de sortir des codes des réunions classiques qu'on pouvait avoir de comité de pilotage en entreprise. Et c'est aussi parce qu'on a une membre du collectif qui est très investie dans le milieu associatif. Donc, elle nous a fait découvrir pas mal de moyens de communication, de modes de communication. Et on a décidé de les adopter. Donc, vas-y. Ah, j'y vais. Ok, je continue.
Du détail.
On a écrit ce qu'on appelle une charte relationnelle, donc qui est propre vraiment à notre collectif et qui doit être validée par chaque nouveau membre qui veut nous rejoindre. Donc, cette charte, c'est une sorte d'outil de cohésion qui vient s'accorder sur les devoirs et les droits de chacun, par exemple. et aussi nos principes de fonctionnement. Donc, ce que pouvait dire Chloé tout à l'heure, on fait une validation par consentement, c'est soit 100%, soit 0. Ou sinon, on vient se retrouver au milieu et on vient réécrire la proposition initiale, en fait, jusqu'à ouais. temps qu'elle soit acceptée par tout le monde. Et après, on utilise aussi l'élection sans candidat. Donc,
Il n'y a pas de président du collectif, en fait. On a tous des responsabilités aussi au sein du collectif. On a tous quelque chose à apporter. La seule chose qu'on va faire, c'est si on rencontre évidemment quelqu'un, vu qu'on est plusieurs, on va élire des porte-paroles. Mais sinon, on a tous une responsabilité. Il n'y a pas un représentant ou un président ou une présidente. On a tout un système de rôles pérennes et des rôles volants.
Ouais.
En gros, les rôles et ces rôles pérennes, ils peuvent tout le temps changer. Hein. Imaginons, moi aujourd'hui, je suis sur le rôle de la communication du collectif, ce qui est le cas actuellement. Si demain je veux être sur le rôle d'organisation des apéros, je serai sur l'organisation des apéros.
C'est le rôle le plus important dans le collectif.
Mais oui, on a un rôle apéro.
C'est ce qui nous a soudés au départ.
Mais d'ailleurs, c'est ce qui fait que ça soude aussi le collectif, donc c'est quand même important, même s'il a comme ça, c'est marrant. Et après, les rôles volants, c'est plus pour nos hebdos, donc une fois par semaine, on se réunit et en fait, on travaille avec Trello, je ne sais pas si tu connais.
Moi, je connais, mais on peut peut-être décrire un petit peu s'il y a des personnes qui ne connaissent pas.
Alors, le Trello, comment expliquer ? En gros, c'est un outil dans lequel on peut ranger toute la to-do du collectif qui est accessible à tous et où on peut tous, dans la to-do, mettre nos commentaires, les fichiers associés. Donc, du coup, on a rangé avec... on a une colonne avec... c'est une colonne qui est réservée à l'hebdo où dedans, on va mettre des cartes. Donc, on appelle ça des cartes. Donc, c'est les sujets qu'on va évoquer pendant l'hebdo. Et après, on a une colonne avec... tout ce qu'on veut faire, tous les projets à court terme, tous les projets à long terme, voilà.
Ouais, c'est entre la to-do list et la gestion de projet un petit peu, comme outil informatique.
Ouais, voilà, exactement. C'est ça, et donc c'est hyper utile et c'est hyper pratique. Et donc en fait, cette colonne qui est dédiée aux hebdos, dans laquelle chacun vient insérer des cartes pour les sujets qu'il veut traiter, il y a un animateur qui est élu, qui se désigne plutôt. Donc ça change à chaque hebdo, du coup, donc il y a un animateur et une animatrice. Et une secrétaire qui va prendre les notes et pouvoir faire un CR pour les personnes qui des fois peuvent être absentes ou puis même avoir une trace de ce qu'on se dit. Et donc ça, on le détermine à chaque fin d'hebdo. Donc du coup, tout le monde est partie prenante dans le collectif, tout le monde on est tous autant engagés en fait.
Mm-hmm. Et pour être, pour arriver en tout cas dans ces réunions-là et avoir un échange structurant, chaque personne qui veut porter un sujet porte une proposition.
Ok. C'est structuré pour éviter que ça parte dans tous les sens.
Exactement, c'est ça. Et donc, ça rend les échanges beaucoup plus
direct.
Enfin, en tout cas, on finit nos réunions souvent en étant content de ce qu'on a fait. Et on ne se dit pas, on va devoir encore parler 2-3 fois.
C'est plus efficace qu'une réunion. Enfin, le fait de mettre un cadre à la réunion, ça permet d'être plus efficace. On ne se voit qu'une fois par semaine. On n'a qu'une heure par semaine pour avoir ce temps d'échange entre nous qui est du coup en plus de nos périmètres métiers à chacun chacune. Donc c'est hyper important qu'on soit efficace, sinon on avancera
pas. C'est une question que je voulais vous poser aussi. Est-ce que on vous a donné du temps pour faire ça ou pour faire vos réunions ou ça reste sur du temps personnel?
Alors c'est intégré dans les hebdos et les copiles, les comités de pilotage, c'est dans nos agendas, dans nos horaires de travail. Par contre, tout le travail qu'on fait en dehors, c'est très compliqué de le mettre dans... ça n'a pas été acté. On ne nous a pas dit, vous avez le droit à autant d'heures dédiées pour le collectif. C'est encore quelque chose qu'on doit travailler et établir avec la direction, la nouvelle direction, parce que là, il y a pas mal de changements chez nous en ce moment. Donc, je sais pas si tu veux...
Oui, c'est la suite de la structuration. Finalement, on a un an d'existence maintenant. C'est à la fois beaucoup et pas tant que ça. Donc, il y a encore des points à travailler, à affiner, et effectivement le temps que l'on passe pour le collectif aujourd'hui, c'est un mix perso pro, mais c'est pas encore bien défini qu'est-ce qui rentre dans le pro, qu'est-ce qui rentre dans le perso, et c'est l'un des points effectivement sur lesquels on travaille avec la direction pour avancer. Moi, je voulais rajouter un point sur l'organisation. À titre personnel, j'ai découvert plein de choses sur l'environnement, mais aussi des outils pour travailler que j'utilise maintenant dans mon métier, indépendamment du collectif. Donc c'est aussi quelque chose qui nous apporte professionnellement des choses qu'on va réutiliser, qui servent l'entreprise pour d'autres sujets finalement.
Oui, il y a des passerelles.
Et si on revient sur le sujet du cadre, justement, on a rencontré une partie de la nouvelle direction ce matin, et c'est vraiment un sujet sur lequel il faut qu'on tranche rapidement, parce que bon, là, on va bientôt fêter notre première bougie, et on voit qu'on a mis beaucoup d'énergie cette année, que ça commence, nos convictions ne s'essoufflent pas, mais nous, en tout cas, en termes de rythme de travail, on ne peut pas repasser une année comme ça, donc on a vraiment besoin d'avoir un cadre défini et validé par la direction aussi. Sur tous ces sujets-là.
Et vous êtes combien dans le collectif maintenant ?
Je crois qu'on est
moins. On est 8. Non, on est moins.
Non, on est 8. Je crois qu'on est 8.
On a pas remplacé tout.
Une petite dizaine.
Et du coup, les personnes qui ont signé le manifeste, elles, est-ce qu'elles ont un rôle aussi dans le collectif, même si elles n'en font pas formellement partie ?
Alors, pour le moment, non. Parce que, avec tout ce temps de structuration, etc., ça a été un peu long. On a voulu définir en gros dans l'organisation qu'on a écrite et qui n'est pas encore réalisée, mais c'est d'avoir un noyau, donc nous, que le noyau du collectif, qui du coup c'est celui qui s'investit le plus, c'est quand on est dans le noyau, on a un rôle dans le collectif. Ensuite, on a un deuxième niveau, c'est des personnes qui vont nous aider au sein du collectif, mais qui n'ont pas de rôle à proprement parler. Leur rôle, c'est d'être contributeurs à nos projets. Et ensuite, on a un dernier volet. Ça, c'est des personnes qui nous soutiennent, qui peuvent de temps en temps nous aider en nous donnant des inputs, des conseils, participer à des tables rondes qu'on pourrait mener, des choses comme ça. Et où là, il n'y a pas d'engagement. Quoi. C'est juste, je soutiens la cause et je vous aide de temps en temps.
Ok, ça marche. Et vous avez passé beaucoup de temps à faire de la structuration. Est-ce que vous avez quand même eu l'occasion de mener quelques actions pour faire changer les choses en termes d'environnement dans l'entreprise ?
Oui, c'est pour ça aussi que ça s'est venu un peu, entre guillemets, court-circuité, le fait de pouvoir embarquer les signataires, parce qu'il y en avait 150, donc c'est beaucoup de personnes, et il fallait qu'on mène des actions quand même, concrètes. Du coup, on a eu plusieurs victoires. La première victoire, dans tous les cas, ça restera ce manifeste, de pouvoir sensibiliser. Suite à ça, on a mis en place... Au début, on a commencé par mettre en place des tables rondes avec les collaboratrices, pour que ces signataires puissent échanger avec nous, et un espace pour pouvoir échanger avec nous, donc sur des sujets liés à l'entreprise, liés à l'environnement, ce qu'ils en pensaient. Et en fait, nous, on récoltait tous ces verbatims et ces retours pour pouvoir le partager auprès du comité de direction, pour que ça puisse nourrir les réflexions. Donc, il y a eu cette première chose. Ensuite, on a mis en place ce qu'on appelle des conférences planètes. C'est une conférence qu'on maintient tous les 3 mois. Et durant laquelle, elle se divise toujours en deux. Il y a une partie entreprise où on met en lumière les projets qui sont en réalisation ou qui ont été réalisés ou qui sont en cours de réalisation. Et le deuxième volet de la conférence où on fait intervenir quelqu'un d'externe à l'entreprise pour dire d'avoir une ouverture de chakra et des exemples à suivre, des choses peut-être pas faire nous dans l'entreprise.
Et sur les deux premières éditions, on ne s'est pas encore penché sur l'externe parce qu'en fait, il y a eu des acquisitions d'entreprises vertueuses pour l'environnement au sein du groupe et qui sont aujourd'hui trop peu connues par les collaborateurs. Donc, on voulait d'abord leur laisser l'occasion de se présenter.
C'est de l'externe interne au final.
C'est de l'externe interne. Et c'était hyper enrichissant et au moins, on sait qu'il y a des avancées dans l'entreprise. Et là, on a pour ambition de s'ouvrir un petit peu plus à l'externe, puisqu'il y a des jolies initiatives aussi dans notre région qu'on veut mettre à l'honneur.
Ensuite, la plupart des membres du collectif sont devenus fresqueurs de l'économie circulaire. Et nous avons été invités à un séminaire regroupant les principaux dirigeants du groupe pour...
700 personnes.
Une centaine de personnes. Donc, on s'est répartis de différentes tables. Et donc on a été conviés pour les fresquer. C'est un verbe qui n'existe pas. Mais
qu'on comprend dès qu'on a déjà fait une fresque.
Voilà. Donc voilà, pour les fresquer. Et donc ça nous a fait... on a ressenti énormément de fierté à être les ambassadeurs, finalement, être connus comme étant des personnes qui peuvent apporter quelque chose aux grands dirigeants. Et suite à ce séminaire, notre PDG a décidé que cette fresque devrait être déployée sur l'ensemble des collaborateurs, donc à la fois au siège et à la fois dans nos autres entités, exactement. L'objectif, c'est de fresquer tout le monde d'ici 2024. Donc, c'est un gros objectif.
Il vous reste un peu moins d'un an.
Voilà. Depuis septembre, on a commencé activement. Ouais.
Et du coup, mais c'est un gros signal pour nous de l'entreprise. Donc, ça, c'est très, très positif.
Ouais, félicitations, c'est une super réussite.
C'était une super expérience. Enfin, moi, j'en garde un très bon souvenir et je pense que c'est le genre de choses que je pourrais dire quand je serai une vieille mamie à mes petits-enfants.
Comme moi.
Ouais, comme toi. Mais c'était vraiment une super expérience et puis d'avoir ce retour-là en face aussi, qu'on nous dise que c'est génial, qu'il faut trop que ça soit déployé partout parce qu'il y a le PDG qui l'a dit, mais toutes les personnes aussi qu'on a fresquées ce jour-là étaient hyper positives. Donc, ça donne du coup. Ça donne de la force à ce qu'on fait et moi, je suis super fière de ce qu'on a fait là jusqu'à aujourd'hui.
Et ça leur a pas fait peur parce que quand même, les fresques, en général, elles montrent quand même tout ce qui va pas et tout ce qu'il faudrait faire. Et on voit l'étendue du travail devant nous. Je me dis, les dirigeants ou des salariés, ils peuvent se dire, oulala, mais on peut y arriver.
En fait, celle-là, elle est beaucoup moins anxiogène que celle du climat. Parce que il y a une partie factuelle et état des lieux, un peu comme la fresque du climat. Et après il y a une deuxième partie sur les solutions qui existent et qu'est-ce que c'est la circularité et qu'est-ce qui existe aujourd'hui. Et en plus de ça, nous on l'a spécialement personnalisé pour cet événement, donc avec des exemples de l'entreprise, des exemples dans l'écosystème de l'entreprise pour vraiment impacter et responsabiliser et que ça puisse plus leur parler aussi. Donc,
puis montrer qu'il y avait des solutions qui étaient déjà présentes, qu'il y avait des choses concrètes de mise en place et que maintenant, il fallait juste tout mailler ensemble. Enfin, juste.
Voilà. Ouais, là où la fresque du climat ressort avec un grand stress, finalement.
Et puis pas de solution aussi. Enfin, voilà, on se dit, OK, bon, on est dans
la fresque de l'économie circulaire, on ressort plus avec des solutions, des idées de ce qu'on peut mettre en place.
Et donc c'est plus motivant.
Plus motivant et c'est quelque chose qui est plus applicable dans le cadre d'une entreprise où la fresque du climat, c'est surtout une prise de conscience individuelle qu'après, il faut savoir retranscrire dans sa vie pro et sa vie perso. Mais voilà, donc l'économie circulaire semble plus adaptée à un milieu pro.
Ouais, ce que j'allais dire, elle est bien adaptée pour l'entreprise.
C'est aussi engageant, ça permet de voir... pour chaque collaborateur, comment il peut intervenir dans son métier, qu'est-ce qui peut changer.
C'est pour ça qu'on l'a personnalisé, hein. Ça sert aussi à ça, pour que chacun et chacune puisse se projeter à titre perso.
Et c'est déjà de belles actions. Et je me demandais, voilà, est-ce que d'avoir créé le collectif, avoir un sponsor, des réunions, être structuré, faire toutes ces fresques, sensibiliser toutes les personnes de l'entreprise sur un sujet qui est vraiment en lien avec l'entreprise, où vous savez que ça va pouvoir faire potentiellement changer les choses et faire travailler les personnes différemment peut-être. Est-ce que ça a contribué à réduire votre éco-anxiété dont vous parliez au début ?
Moi, à titre perso, ça a eu un impact positif sur ma carrière professionnelle parce que ça m'a permis de pouvoir changer de périmètre et changer de métier. Parce que, comme je disais au tout début du podcast, j'étais pas du tout sur un poste qui était lié à ces sujets-là. Donc moi, ça m'a permis d'évoluer là-dedans et d'être à un poste qui est en phase avec mes valeurs et sur lequel je peux avoir une vraie action. Donc ça a participé à ce que l'éco-anxiété soit moins présente. Après, ça ne l'enlève pas complètement. Disons que ça me rassure plus dans le sens où je me dis, je fais quelque chose à titre perso et j'ai réussi aussi à faire quelque chose à titre pro, même si ce n'est toujours pas suffisant. Ça l'a réduit. Mais avec tout ce qu'on entend, tout ce qui se passe, ça reste quelque chose qui continue d'être enfoui quelque part. Après, personnellement, ce n'est pas une éco-anxiété qui me paralyse, c'est plutôt une éco-anxiété qui me donne envie de bouger et de garder cette énergie, de continuer jusqu'à temps que je pourrai donner d'énergie là-dedans.
Je vais pas répéter ce qu'a dit Chloé, mais j'argente sur beaucoup de points. Déjà, je trouve ça important d'aligner mes valeurs personnelles sur sur mon travail. Donc, j'ai la chance de l'avoir au quotidien, mais ça a été démultiplié aussi par le collectif. On s'est aussi positionné en tant qu'épaule les uns pour les autres. Donc, rien que d'être dans l'échange sur ces sujets-là, de voir qu'on n'est pas seul, ça a été grandement.
On peut compter les uns sur les autres aussi pour se rassurer.
Et depuis qu'on est au collectif et du coup qu'on travaille avec une partie de la direction, on est plus au courant, on a plus d'informations de ce qui se trame, des stratégies qui sont en train d'être mises en place. Donc ça nous rassure aussi sur le tournant que prend l'entreprise. Et je pense que tout ça, ça nous a aidé aussi sur cette année en tout cas.
Alors je rejoins Chloé et Colline. Et je voulais ajouter que pour moi, l'éco-anxiété, être éco-anxieux, finalement, c'était un comportement assez sain. Finalement, puisque les enjeux sont vraiment là, donc je pense qu'on a raison d'avoir peur. Et si on n'avait pas peur, si on n'a pas peur, c'est qu'on n'est pas vraiment conscient de ce qui nous attend. Et pour moi, l'objectif, c'était, je ne pense pas que je perdrais cette éco-anxiété, mais c'était plus de la maintenir en dessous d'un seuil où ça devient, où on peut avoir des symptômes physiques et se retrouver en boule dans un coin d'une salle, et plutôt de la garder suffisamment bas pour que ça reste une force motrice pour mener des actions. Et rester en accord avec soi-même.
C'était plus dans ce cadre-là. Tu l'as bien dit.
Merci. Ouais.
C'est très inspirant, merci. Bon, et alors, les prochaines étapes pour le collectif, on a parlé de définir ce qui rentre dans le temps de travail ou pas, de continuer à structurer, de déployer d'autres actions. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter?
Ça va être un gros point, mine de rien, parce que comme disait Chloé, il y a un changement de direction. Donc, on a encore des rencontres à faire et on doit se réaligner aussi sur... la stratégie qui sera posée, la trajectoire pour 2024 et les années suivantes.
Puis c'est tout frais, est-ce qu'on l'a rencontré ce matin?
Voilà, donc on l'a rencontré ce matin, là, on est pile dans le créneau. Donc on voit qu'on peut mettre quelque chose de chouette en place et on va du coup créer une véritable gouvernance, je pense, avec la direction. Donc on a hâte d'avoir ces prochains échanges.
En tout cas, on espère qu'il y en aura une. En fait, on ne sait pas trop comment ça va évoluer de leur côté. On a eu un échange avec eux ce matin. On a été remerciés, ce qu'on a fait a été apprécié et ils ont conscience qu'on peut être une force pour l'entreprise. Après, comment ça va concrètement s'organiser? Aujourd'hui, on n'a pas encore la réponse. On espère l'avoir bientôt et pour 2024, en tout cas. Ce qu'on peut nous souhaiter, c'est que le collectif puisse grandir, qu'on puisse... être vraiment des parties prenantes dans les stratégies de l'entreprise et qu'on puisse, je ne sais pas si on te l'a donné, mais notre ADN, c'est, en tout cas, notre raison d'être, c'est inspirer, challenger par l'écoute et les rencontres, les stratégies et les actions qui permettront à l'entreprise de répondre aux enjeux environnementaux. Donc, en fait, ce qu'on peut nous souhaiter, c'est de pouvoir répondre à ça, en fait, et d'être toujours dans cet échange, de toujours pouvoir challenger la direction, parce que on a une appétence un peu plus grande sur ces sujets-là, donc nous, on essaiera de pousser un peu plus loin leur réflexion, et donc si on peut le faire, c'est génial.
Et toujours en restant dans notre place aussi, comme on a pu le préciser précédemment, le fait qu'on ne soit pas des experts, qu'on soit juste des personnes avec des convictions peut-être un peu plus importantes sur ces sujets-là et que du coup on est disponible pour challenger et prendre part au sujet.
Ouais, garder ce rôle de catalyseur et avoir un impact de plus en plus important sur cette question écologique.
Et embarquer tout le monde aussi, pas que le siège social. Aujourd'hui, on a fait du bruit dans le siège social, mais l'idée, c'est que ça se répande partout. Pas avec que notre collectif, juste en diffusion de ce qu'on fait, mais que ça soit quelque chose qui s'initie partout, par tout le monde, et qui fasse partie des convictions de chacun quoi, et de chacune.
Mais par contre, l'objectif, ce serait plus de susciter des vocations et des actions comme celles qu'on a pu mener, mais
en local,
et surtout faut que le cœur soit là-bas, c'est-à-dire que c'est pas nous qui allons de l'extérieur leur impulser quelque chose, il faut que ça vienne d'eux-mêmes, parce que c'est beaucoup plus puissant et c'est
pérenne. Là, on parle des magasins directement, quand vous dites en local.
Oui.
Puis en fait, on a aussi créé le collectif avec pour cible de se dire que on sera plus là demain, Non, mais dans le sens où notre but, c'est pas de conserver un collectif à vie d'aeternam dans l'entreprise, mais bien que bah, chaque collaborateur demain soit responsable et prenne conscience de ces enjeux-là, en fait.
En soi,
le collectif, il sera élargi à.
Ouais, en fait, on aura réussi quand, entre guillemets, il n'y aura plus de collectif. Parce qu'on n'aura plus besoin. Parce qu'on n'aura plus besoin de nous, parce que bah, ça sera infusé partout et que ça sera évident pour tout le monde. À partir de ce moment-là, on aura vraiment réussi.
On a piqué cette formule au resto du cœur. Mais...
Ok. Alors, j'ai une coutume dans le podcast, c'est de demander à la fin un conseil écolo au boulot aux invités. Du coup, est-ce que chacun, vous pourriez donner un conseil écolo au boulot aux personnes qui nous écoutent, qui est lié au collectif ou pas, comme vous voulez?
Moi, le conseil que je donnerais, c'est de parler. De ne pas avoir peur de la réaction qu'on pourra avoir en face, parce qu'on est face à un enjeu qui est beaucoup trop important pour qu'on puisse se laisser paralyser, en fait. Et il faut y aller, il faut s'exprimer. Et si on n'est pas en accord avec l'entreprise, ben, il faut savoir le dire. Après, on n'est pas obligé de crier, de faire des pancartes de manifestants ou autre. Mais
il y a plein de façons de le dire.
Il y a plein de façons de le faire. Tout peut être entendu si on le dit bien.
Bah, je vais rejoindre Chloé. En fait, c'est d'être dans l'échange déjà. Pas laisser l'éco-anxiété grandir dans son coin. Échanger avec les managers, la direction. Parce que
je pense
Et avec des collègues. Je pense que c'est des sujets qui vont toucher dans les années à venir de plus en plus de collaborateurs. Ça va être un véritable sujet structurant dans les entreprises. Et peut-être aussi travailler avec le manager pour avoir un cadre de mission qui permet des initiatives en faveur de l'environnement. En tout cas, essayer de repenser les métiers avec son chef pour que ça soit plus en accord avec ses propres convictions.
Grand sage, donne-nous ton conseil.
Ah oui, bien sûr.
on le charrie un peu parce que c'est le plus vieux du collectif. La moyenne d'âge, elle est 30 ans.
Pour compléter ce que mes éminentes collègues ont pu dire juste avant, c'est aussi s'aérer et s'inspirer de ce qui se fait dans d'autres entreprises et d'essayer de l'apporter et de s'acculturer finalement, parce qu'il y a plein de choses qui existent dont on n'a pas connaissance. Et en plus d'essayer de sensibiliser en interne, c'est être aussi force de proposition, parce qu'en venant juste en protestant, comme l'a dit Chloé, ça va pas marcher. Il faut vraiment arriver avec des propositions de solutions. Et ça, c'est essayer de voir d'autres boîtes, d'autres collectifs qui existent en dehors des entreprises, parce qu'il y a plein de belles choses qui sont de jolies choses, je reprends ton adjectif, qui existent déjà et qui ne demandent pas beaucoup finalement d'investissement à l'entreprise pour être mise en place. Et quand vous arrivez face à un dirigeant et vous lui dites bah, regarde, on va faire ça, tu vas avoir ça et ça coûtera que ça, bah, tout de suite, ça enclenche une dynamique.
Ouais, vous-même, ça vous a servi, les exemples d'autres collectifs pour vous donner confiance, des manifestes qui existaient peut-être pour vous inspirer, des organisations qu'on voit dans des associations pour vous organiser vous-même. Et ben, j'espère que grâce à ce podcast, vous deviendrez maintenant vous-même des exemples et une source d'inspiration pour d'autres collectifs de salariés dans nos entreprises.
Bon, on espère en tout cas.
Ah ouais, moi je fais ma statue.
On a porté notre voix et on a bien fait, parce que ben, si on était resté dans notre coin, ben, je sais pas si déjà on serait encore tous dans l'entreprise. Et puis ben, ça a été une force aussi de se retrouver tous ensemble en collectif, et ça a été une force qu'on a pu amener dans l'entreprise au sein jusqu'aux dirigeants. C'est un message super positif et ça doit nous encourager et encourager, j'espère, les personnes qui nous écoutent, qui vont nous écouter.
Exactement, parce que quand on fait la fresque du climat, on nous parle beaucoup du triangle
de l'inaction.
Et en fait, en faisant ce podcast, je me suis dit bah super, en fait ce qu'on a fait nous, bah, c'est qu'on est sorti de ce triangle-là, parce qu'on s'est dit bah, individuellement, on ne pèse pas beaucoup, et donc on s'est mis en collectif, et là, aujourd'hui, on peut peser, et du coup, on sort de ça. Et ça, c'est top. C'est une réponse qu'on peut apporter aux gens qui disent bah, « Qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi, alors que j'ai telle entreprise de pétrochimie qui relargue toutes ces substances, tout ce CO2 dans l'atmosphère ?» Voilà, c'est une réponse, finalement, une des réponses, en tout cas, à ce triangle d'inaction.
Et en parallèle, on a fait des jolies rencontres aussi. Donc
oui, il y a aussi le côté humain Et à titre perso, moi, c'est la première fois que je lis des liens aussi forts avec des collègues. Et du coup, je déteste donner ce terme aux personnes du collectif, parce que pour moi, c'est plus que des collègues maintenant. On a vraiment créé des liens très forts et je suis trop contente de les avoir aujourd'hui dans ma vie et de les avoir eu sur mon chemin.
Ça, c'est hyper important aussi pour se sentir bien au travail, c'est clair. Eh ben, merci beaucoup à tous les trois d'être venus raconter la création de votre collectif et je vous souhaite de réussir votre raison d'être, de plus exister le plus rapidement possible.
En tant que collectif.
En tant que collectif. Oui.
Et merci beaucoup d'être venu au micro d'Écolo au boulot.
Merci à toi. C'était un plaisir. Merci
pour l'invitation.
Cette histoire est complètement folle et tellement porteuse d'espoir. À une dizaine, ils ont osé dire haut et fort qu'ils en attendent plus. En se mettant dans une posture d'accompagnement de l'entreprise, ils ont eux-mêmes été accompagnés par un membre du CODIR, et c'est pas rien, pour déployer des formations à l'économie circulaire dans toute l'entreprise, des conférences mensuelles, et il ne vaut probablement pas s'arrêter là. Ce qui m'a marqué, en dehors du courage de ce collectif, c'est la question du CODIR. Vous êtes avec nous ou contre nous? Comme si tout était noir ou blanc, et immuable dans le temps. Dans notre exemple, le collectif avait la volonté de faire changer les choses avec l'entreprise. Ils sont avec elle. Mais imaginons que le CODIR leur demande d'arrêter le collectif. Est-ce que ça ne leur donnerait pas finalement envie d'être contre l'entreprise? Est-ce qu'ils n'auraient pas décidé alors d'aller voir ailleurs s'ils n'étaient pas plus utiles à la cause environnementale? Je comprends la méfiance des dirigeants, mais ça peut être un piège qu'ils se tendent à eux-mêmes en n'anticipant pas cette demande légitime des salariés de rendre l'activité durable, soutenable, compatible avec nos limites planétaires, porteuses de sens. En mettant en place des dispositifs d'échange sur ces sujets avec les salariés, on a moins de chances de découvrir un collectif dont on se méfie du jour au lendemain. Nos trois intervenants aujourd'hui ont l'air de brillants talents pour une entreprise. Et s'ils n'avaient pas créé le collectif, peut-être auraient-ils fini par démissionner, faute de se sentir utile? Bref, tout ça souligne l'importance d'impliquer les salariés, de les impliquer vraiment dans la transition écologique de l'entreprise. Bon, alors je ne vous quitte pas sans la mise en action, avec des conseils sur trois niveaux d'engagement. Donc à votre niveau individuel, ce que vous pouvez faire suite à cet épisode, c'est d'aller vous renseigner et de vous former en dehors de l'entreprise. La plupart des membres du collectif étaient fresqueurs, c'est-à-dire animateurs de la fresque du climat ici. Ça leur a donné une base de formation et ça les a rassemblés dans l'entreprise. Un membre du collectif a ramené de ses expériences associatives un mode de fonctionnement avec les décisions par consentement, par exemple. Donc allez vous inspirer de ce qui se passe à l'extérieur avant de peut-être le ramener à l'intérieur de l'entreprise. Au niveau 2, niveau collectif, parlez à vos collègues. Lorsqu'il y a une boîte à idées, un sondage interne, concertez-vous pour répondre à peu près la même chose, pour demander des choses qui vont dans le même sens, ce qui donnera du poids à votre demande, parce que vous serez plusieurs à avoir formulé la même demande. Et qui sait, vous créerez peut-être un collectif. Et niveau 3, enfin, au niveau global, dans toute l'entreprise, on voit que ce qui a été un changement majeur, c'est malgré tout la reconnaissance du collectif par le comité de direction. Ça lui donne une légitimité et des moyens, comme animer la fresque de l'économie circulaire auprès de l'ensemble des salariés et directeurs du site. Ça vous a inspiré? Maintenant, c'est à vous de jouer. Merci encore d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Et si vous cherchez d'autres idées, je vous conseille mon livre « Écolo au boulot, 60 éco-défis pour agir », publié aux éditions Jouvence et disponible chez vos libraires. Maintenant, à vous de jouer. Ciao !